BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse. Avec Stéphane Pedrazzi.
Il reste une demi-heure de cotation à la Bourse de Paris. Le CAC est en progression dans le sillage des indices boursiers américains. Plus 0,58% au de Kersulec. On est toujours au-dessus de la barre des 8000 points.
Oui, on prend même encore un petit peu de pourcentage hein, depuis quelques minutes, plus 0,6%. Ça s'est redressé aussi en fait sur le Nasdaq hein, du côté de Wall Street. À un moment, on avait frôlé le territoire négatif peu après l'ouverture. On est maintenant en hausse de 0,4%. Ça va mieux sur les techs. Bon, c'est toujours elles hein, qui perdent un petit peu sur le marché parisien. En revanche, heureusement qu'on a nos publications de chiffres d'affaires du matin car elles boostent un peu notre CAC 40. On a Edenred qui est en première place et qui prend 4,5%.
Dans l'actualité cet après-midi, une baisse des taux est-elle encore possible aux États-Unis? L'indice de la Fed de Philadelphie indique en effet une très nette accélération de l'activité au mois d'avril. Hier soir déjà, le livre beige de la Réserve fédérale évoquait une légère expansion de l'activité au mois de mars, très loin du ralentissement qui était attendu il y a encore quelques semaines. Une baisse de taux est-elle encore possible dans ces conditions? On va en débattre dans un instant avec nos invités du club. Et puis l'actu de ce jeudi, c'est également l'introduction en bourse réussie de Planisware, spécialiste français des logiciels dédiés à la gestion de projets. Il affiche une hausse de 25% pour sa première journée de cotation à la Bourse de Paris. On en parlera tout à l'heure à 17h35. On refera la séance avec nos invités.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Le club avec nos deux invités, Alain Pitou, Senior Advisor ESG, bonsoir. Bonjour. Et bonsoir également, bonjour, ouais, il fait encore jour. Bonjour Christopher Dembic, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Question toute simple, est-ce qu'on peut encore baisser les taux aux États-Unis après ces nouveaux chiffres qui ont été publiés aujourd'hui? L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est remonté à 15,5 au mois d'avril. La prévision était de 1,5. On s'attendait à une petite baisse et on a un chiffre évidemment qui montre une très nette accélération. Alors d'abord, un peu de pédagogie, Christopher. Ce chiffre, il est important. Généralement, il est considéré comme un signal précurseur de la tendance nationale.
Oui, complètement. Ça nous permet d'avoir une visibilité sur un peu ce qui se passe. On a depuis déjà plusieurs semaines des indicateurs qui vont tous dans le même sens, à savoir l'économie américaine se porte très bien, mieux que prévu. L'indicateur notamment de suivi du PIB d'Atlanta, alors ça reste très volatile, mais vous montre qu'on devrait être sur un premier trimestre au-dessus de 2% de croissance, ce qui est excellent. Et derrière cela, sans surprise, des pressions inflationnistes. Le problème certainement, c'est qu'on a des pressions inflationnistes partout. Au niveau de la production, au niveau des prix à la consommation, notamment dans les services, et également au niveau du marché de l'emploi. Je le rappelle, aujourd'hui, un Américain qui déciderait de changer d'emploi, en moyenne, il peut avoir une hausse de salaire de 10%. Donc ça complique la tâche, et souvenez-vous, on est au mois d'avril, 4 mois de cela, le panorama qui était dressé par le consensus était quand même très différent sur l'évolution macroéconomique. On ne s'attendait pas à une telle surperformance de l'économie américaine sur la croissance et donc sur les pressions inflationnistes.
La perspective a vraiment radicalement changé en l'espace de quelques mois. D'abord, on s'attendait à un soft landing, puis à un no landing. Et là, c'est le scénario du redécollage qui se dessine.
C'est le scénario de la réaccélération. Alors bien sûr, on n'a encore que quelques chiffres, donc il faudrait être assez prudent. Mais en même temps, la Fed et notamment Powell a été assez clair hein, dans les derniers commentaires et y compris son bras droit. Le message est assez limpide par rapport à ce qui était évoqué en fin d'année. On se disait on va avoir le pivot, c'est une question de timing, etc. Là, c'est plutôt les taux vont rester inchangés aussi longtemps que nécessaire. Et c'est vrai qu'avec les données macroéconomiques qu'on a, c'est compliqué d'avoir une économie en ralentissement. Peut-être l'élément qui est fondamental pour comprendre pourquoi cette économie américaine, elle se porte aussi bien, c'est que selon les anticipations notamment qui ont été publiées par le FMI, pour 2024-2025, les États-Unis vont avoir sans surprise le déficit public le plus élevé des pays développés, mais surtout ça se rapproche du déficit public des pays émergents qui sont habituellement plus importants, notamment Chine-Inde. Le FMI estime que ça devrait être en 2025 à 6% du PIB. Et bien sûr ça crée quand même un soutien au niveau de l'activité qui est massif. Donc tant que vous avez le déficit public, ça va être compliqué pour la Fed de réaliser son job de baisse de l'inflation.
Alain Pitou, je vous vois secouer la tête. Vous n'êtes pas d'accord avec la bonne santé de l'économie américaine ?
Si, ça c'est factuel, ça on peut pas la contester. Par contre,
Mais Christopher le disait, elle est aussi financée grâce aux mesures budgétaires.
Oui, c'est ça, et c'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est ce qui rend l'équation extrêmement difficile pour la Fed. C'est que d'un côté, vous avez une masse de dettes et un endettement public qui ne cesse d'augmenter.
1000 milliards de dollars tous les 100 jours.
Voilà, donc on est quand même aux limites de la machine, hein, quand même. Hein. Donc c'est quand même un sujet.
On disait déjà ça il y a 15 ans. Hein.
Oui.
Qu'on était aux limites.
Oui, enfin, il y a un moment donné, il y a 15 ans, on a réglé le problème, mais il y a eu un petit passage, si vous vous rappelez, dans les années 2008, 2007, 2009, qui a été quand même un peu difficile et qui a généré énormément de problèmes. Alors, pas forcément d'ailleurs aux États-Unis et un peu ailleurs, mais enfin en tout cas c'est vraiment le sujet, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on a ce niveau d'endettement qui a financé la croissance. Ça, c'est le premier point. Après, je trouve que ce qui est perturbant, pardon, c'est le débat qu'on a eu il y a quelques mois, c'est-à-dire qu'en fait on se disait il y a quelques mois soft landing, baisse des taux, donc on était dans un scénario qui était pas mauvais pour les actions, puisqu'en fait on avait de la croissance, gentiment de la croissance, un soft landing, donc une petite croissance, en tout cas suffisante pour acheter des actions, et avec une perspective de baisse des taux. Après, on s'est retrouvé dans une situation où on s'est dit, pas tout de suite la baisse des taux. On ne sait pas combien on aura, on ne sait pas tout de suite. Alors ça, c'est pareil, c'est pas très gênant pour les actions, puisqu'en fait, on avait quand même une croissance marquée et une perspective de baisse des taux. Mais là, le problème qu'on peut avoir, et ça pourrait générer une tension à un moment donné sur les marchés, c'est de se dire, et si finalement, on n'avait pas de baisse des taux? Et est-ce que à ce moment-là, c'est la croissance qui va l'emporter ou le niveau de dette qui va falloir combler à un moment donné? Donc, ou au moins ralentir la pente, sans s'emparer de le combler. On n'est pas dans cette situation-là, mais enfin, en tout cas, c'est un moment de torsion et un moment de changement de cap qui peut être très perturbant, parce qu'encore une fois, jusque maintenant, il n'y avait pas de changement de cap. On se disait les taux, c'est retardé, c'est pas très grave, et le marché, ça lui suffisait. Mais là, si on se retrouve une situation où il n'y a pas de baisse des taux, alors là, à un moment donné, il risque d'y avoir un retour sur terre qui peut être assez douloureux.
La Fed regarde la croissance, elle regarde aussi et surtout l'inflation. Et Christopher, l'inflation est de retour aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est le début d'une tendance? Là encore, je vais revenir à la Fed de Philadelphie. La composante prix payé, elle est passée de 3,7 à 23 au mois d'avril. Ça veut dire que l'inflation est de retour.
Ah, complètement. Et ça confirme tous les indicateurs qui nous donnaient une vision du passé. Là, ça nous donne quasiment un peu une vision du futur, parce que vous l'avez rappelé, on va avoir probablement dans le même sens sur les, au niveau régional, sur les autres régions, et donc un panorama national. Et le problème qu'on a, c'est qu'on voit très bien les poches inflationnistes. On le savait depuis un moment que l'inflation serait volatile aux États-Unis, mais il y a un débat entre savoir est-ce que c'est volatile, et c'est vrai que d'un mois sur l'autre, ça peut être problématique, à on est sur une réaccélération. Je vous donne juste un seul chiffre qui montre à quel point on est sur une réaccélération. Sur l'indice des prix à la consommation, en mensuel, on est en temps normal sur une appréciation de 0,1-0,2% en mensuel. Sur le dernier mois, on a eu une appréciation de 0,4%. Donc c'est quand même très massif sur un seul mois l'appréciation mensuelle. Et vous avez effectivement ces poches inflationnistes qui non seulement ne se dégonflent pas, mais réaccélèrent. Dans l'inflation dans les services, tous les éléments sont en réaccélération à cet égard. L'emploi, depuis deux mois, ça réaccélère aussi. Alors, sur l'emploi, il faut être prudent, est-ce que ça va être durable? Mais quand même, malgré tout, le message qui est envoyé à la Fed, c'est un, non seulement l'inflation, peut-être qu'elle a reflué pendant plusieurs mois, mais à un certain stade, on a buté, surtout, ça réaccélère. Et le sujet pour la Fed, c'est jusqu'à quel point ça va réaccélérer. Il est indéniable que sur les deux prochains mois, on n'aura pas suffisamment de données économiques pour se dire, finalement, il n'y a pas d'inquiétude, ou il y a un sujet d'inquiétude. Donc, tout cela nous ramène plutôt à septembre, pour avoir un peu plus de visibilité, parce qu'il y a les effets saisonniers aussi de l'été. Donc c'est très compliqué comme diagnostic, mais c'est fondamentalement le reflet d'une économie qui est dopée à du déficit budgétaire, et ça va perdurer longtemps, et probablement que la Fed, à un certain stade, devra faire un choix à accepter d'avoir une inflation qui soit très loin des 2%, c'est-à-dire plutôt entre 3 et 4% en moyenne.
Est-ce que nous, on est à l'abri d'un retour de l'inflation dans la zone euro?
Ah oui. Il n'y a pas de pression sur les salaires, déjà.
Peut-être chez Pictet Asset Management.
C'est un autre sujet.
Ça sent les négociations de bonus.
Mais en tout cas, selon les indicateurs de la BCE, qu'elle suit pourtant, et c'était le sujet d'inquiétude, on ne voit pas ces craintes sur les salaires. Il n'y a pas de boucle prix salaire, c'est très très clair. Il y a toujours cette crainte de choc externe. Oui, le pétrole est à 90 dollars, le risque géopolitique, certes, mais c'est marginal, c'est pas structurel. Ça ne va pas faire du jour au lendemain que la BCE va se dire « Ah, finalement, on va pas baisser les taux ». Donc, dans tous les cas, la zone euro est sur une situation qui est très différente. Et surtout, la BCE a quand même bien travaillé sur le sujet de l'inflation. Elle a publié un rapport il y a quelques mois de cela, disant « Fondamentalement, quand même, pour la zone euro, l'inflation, c'était un sujet de choc d'offre. Il fallait résorber ce choc d'offre, ça a pris du temps. C'est peut-être d'ailleurs même pas l'action de la BCE qui a été aussi décisive pour faire refluer l'inflation. Donc, tant que c'est pas du côté de la demande, j'oserais dire, c'est assez facile à gérer d'une certaine manière et ça se résorbe d'un peu naturellement.
Alain Pitou, là, ce sont des problèmes de riches. Je sais que vous avez une fibre un peu plus sociale. Aux États-Unis, il est de plus en plus difficile de s'acheter un logement.
Oui.
L'accessibilité des logements en termes financiers est au plus bas depuis 1980. Ça devrait être une raison qui incite la Fed à faire un geste.
Oui.
Mais non.
Oui, mais non. En fait, il y a deux choses. On a eu une décrue du marché de l'immobilier. Alors, je parle pas de l'immobilier. Alors, on parle pas de l'immobilier de bureau, qui est un cas un peu spécifique. Mais l'immobilier locatif, l'immobilier pour les particuliers, a effectivement subi un choc parce que les taux ont très fortement monté. Mais si vous regardez, malgré que la Fed n'ait pas bougé ses taux, les taux de mortgage ont nettement baissé. Donc, j'espère que c'est une situation qui pourrait s'améliorer.
Les taux... Alors, oui, on a quand même une petite remontée. On a eu le chiffre cette semaine. Le taux moyen des crédits immobiliers à 30 ans aux États-Unis est remonté à 7,13% la semaine dernière.
Oui, mais on était à...
Plus haut, oui, mais oui, plus haut depuis le début du mois de décembre.
Oui. Mais on était à 8,60 il n'y a pas si longtemps. Donc ça c'est un peu... avec des taux qui n'ont pas
bougé. Et on était à 20% dans les années 80.
Avec des taux de la Fed qui ont... Oui, mais on parle avec des taux de la Fed qui sont restés aux alentours de 5. Donc je pense que, donnons-nous un peu de temps, ça peut s'améliorer, parce qu'il y a aussi... il y a tout un effet croissance qui est là. Et je pense que ce phénomène immobilier, il est quand même là. Alors par rapport à votre question sur la BCE, je pense que le discours était... On pouvait imaginer que la BCE soit première à tirer un peu après la Banque nationale. Suisse, on aurait pu imaginer que la BCE pourrait baisser ses taux avant la Fed, mais ça c'était avant. Et le problème, c'est que le dollar a commencé une progression assez marquée depuis quelques semaines, et la BCE peut assez difficilement baisser ses taux aujourd'hui avec un dollar qui a quand même bien monté. Alors je parle pas d'aujourd'hui, mais sur quelques semaines, le dollar a monté de 2-3%, et c'est perturbant pour la BCE. Donc on est deux fois coincé, quoi.
Ouais. Alors on va prendre les choses dans l'ordre. D'abord,
elle en parlait, Christine Lagarde en a parlé hier. Moi je suis Christine Lagarde. Moi.
Et l'autre, est-ce que vous pensez que la Fed ne baissera pas ses taux cette année? Christopher, quelle est la stratégie?
Non, elle sera obligée de le baisser pour deux raisons. Les anticipations de marché, c'est très dur quand même de passer de tout
de
à
6,
rien.
De 7 à rien du tout.
Exactement, il y a ce premier point. Et ça a été évoqué précédemment, c'est effectivement la question du déficit budgétaire. Ça peut être un argument à prendre en compte plus que l'emploi et le chômage. Aujourd'hui, à taux constant, donc bien sûr ça va évoluer, mais à taux constant, grosso modo, la charge d'intérêt, ça va représenter d'ici la fin de l'année 6% du PIB américain. Si dans un monde idéal, vous baissez de 150 points de base, alors bien sûr c'est beaucoup, vous réduisez 33% la charge d'intérêt. Donc c'est quand même un paramètre à prendre en considération, ce sera bien sûr pas le seul paramètre, mais j'imagine bien qu'à un certain stade ça va rentrer dans les considérations. Mais à minima, dans tous les cas, gérer les anticipations de marché, ce sera déjà un bon argument.
Alain, vous y croyez, vous, au statu quo monétaire, au moins jusqu'aux élections américaines en novembre? On est à 200 jours des élections.
J'ai l'impression qu'on y va tout droit. Alors ce qui serait possible aussi, ce que pourrait faire la Fed, qui serait un peu moins visible, c'est avoir un discours en disant les taux vont baisser, on va faire trois mouvements dans les 6-8 mois, en faire un premier et en même temps reprendre de la liquidité. C'est ce qui est une manière de calmer la croissance en restreignant un peu la liquidité. Ce qui, quand ils font ça, quand ils baissent le bilan de la Banque Centrale de l'ordre de 2% par mois, c'est un effet de 0,25 de contraction. Ça fait comme s'ils montaient les taux de 0,25. Donc ils pourraient avoir un effet d'annulation. Ce qui calmerait quand même un peu le système aujourd'hui d'abondance de liquidité, parce que si on regarde les conditions monétaires pour les entreprises aujourd'hui, elles ont jamais été aussi favorables. Donc ils peuvent contraindre de ce côté-là et se donner un peu de mou politique en baissant quand même un peu les taux.
Dans un instant, on va parler du risque de découplage pour la Banque Centrale Européenne. On a déjà un petit peu abordé le sujet, mais on va l'approfondir. Mais vous l'entendez, dernière ligne droite avant la clôture du marché parisien. Plus 0,7% pour le CAC, 8037 points. Parmi les valeurs qui se distinguent, on a Edenred toujours en tête des progressions sur le CAC après la publication de son chiffre d'affaires trimestriel et la confirmation des objectifs annuels de l'entreprise. Bien orienté également le titre Danone, là encore, publication de chiffre d'affaires qui a été plutôt bien perçu par le marché, même si la réaction est assez modeste. On gagne 1,5%. 0,1%. Du côté des valeurs en baisse, la défense, vous allez voir, on va en reparler dans un petit moment. Thales qui perd 1,1%. Et puis, la sensation du jour, c'est le titre Planisware qui faisait son introduction aujourd'hui à la Bourse de Paris. 25% de hausse pour le premier jour de cotation. On en parlera avec nos invités tout à l'heure à la clôture. Sachez que le cofondateur et le président de Planisware, Pierre de Montsant, sera invité d'Edwige Chevrillon dans la grande interview tout à l'heure à 18h15. Retour avec nos deux clubbers de ce jeudi soir, Alain Pitou, senior advisor ESG, et Christopher Dembick, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. D'abord un mot, le découplage, Christopher, est-ce que si la Fed ne baisse pas ses taux ou ne les baisse presque pas, la BCE est coincée?
Alors non, c'était là où on n'était pas d'accord sur le taux de change. Au moins,
on va régler ça dans le couloir.
Effectivement, on est dans un monde de dollars fort. Et la baisse du dollar, la hausse du dollar, pardon, par rapport à l'euro est problématique, mais ça l'est beaucoup moins, par exemple, par rapport aux devises asiatiques, vous avez un effondrement complet de ces devises. Moi, je pense que tant qu'on reste autour de la zone des 1,05, et là, on est au-dessus, on doit être au-dessus des 1,06 et quelques, il n'y a pas de gros sujet pour la BCE. Il est normal qu'elle envoie un peu quelques éléments, mais la zone de risque, ce serait chuter sous 1,05 et éventuellement la direction de la parité. Et là, bien sûr, c'est inflationniste.
On est à 1,0663 exactement.
Donc, pour moi, fondamentalement, je vois plutôt un euro-dollar entre 1,05, 1,12 peut-être sur le reste de l'année. Ça n'a pas changé la donne sur l'inflation si on reste sur ces niveaux-là. Je ne crois pas un effondrement, malgré tout, parce que déjà, le marché intègre quand même ces scénarios. Et vous voyez, ça ne réagit pas tant que cela sur du très court terme. Donc, ça ne sera certainement pas l'argument qui va être principal, ou en tout cas dans l'immédiat, tant qu'on n'a pas une situation qui se détériore davantage sur les taux de change.
Enfin, il y a quelques mois, on se demandait quand même si la BCE oserait dégainer en premier une baisse de taux. Aujourd'hui, vous vous rendez compte du débat un peu surréaliste qu'on est en train d'avoir. Est-ce que la BCE va oser jouer sa propre partition et baisser ses taux de manière complètement indépendante de la Fed?
Ils n'ont pas le choix. Et ils sont aidés d'une certaine manière, parce que bien sûr on se focalise sur la Fed, mais la réalité c'est qu'au mois de juin, vous avez une forme de coordination des banques centrales des pays développés. Vous allez avoir la BNS, Banque Nationale Suisse, qui va poursuivre sa baisse de taux. Vous allez avoir la Banque du Canada, et peut-être, faudra avoir un peu plus d'éléments, la Banque d'Angleterre, mais si c'est pas au mois de juin, ce sera au mois d'août. Donc finalement, elle est aidée dans ce sens-là de ne pas être vraiment la seule dans cette stratégie. Le vrai sujet pour moi, c'est que fondamentalement, si ces banques centrales baissent les taux alors que les États-Unis vont pas le faire, ça montre quand même que le découplage économique est complètement énorme. Alors bien sûr, il est financé par du déficit, etc. aux États-Unis, mais c'est un vrai sujet derrière ça, et aussi par des gains de productivité qu'on n'a pas en zone euro.
Ouais. Alain, est-ce que la BCE va pouvoir baisser ses taux? Enfin, on a déjà entendu votre point de vue, mais...
Je crois pas. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on est coincé, parce que si elle les baisse toute seule, là, le 1,05, il est balayé dans la minute. Donc, déjà qu'on n'est pas en une grande forme. Et puis, il y a un autre point aussi à pas oublier, hein, c'est-à-dire que le poids de l'euro dans les échanges internationaux a quand même considérablement baissé. Donc, faut quand même faire un peu attention, quoi. Voilà.
Une question qui n'a pas grand-chose à voir.
C'est insupportable.
Une question qui n'a pas grand-chose à voir avec ce débat, mais qui me brûle les lèvres avant de rejoindre Aude Kersulec au siège de Euronext. Alain, on parlait tout à l'heure avec Vincent Auriac de l'investissement ESG. Il n'était pas d'accord avec moi. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que l'investissement ESG en ce moment est à la peine parce que on achète surtout de la défense? Compte tenu du contexte géopolitique, on achète aussi des énergies fossiles parce qu'on s'est quand même rendu compte qu'on en avait besoin pour effectuer la transition. Et on voit que certains investisseurs désertent BlackRock. Peut-être parce que BlackRock a une politique ESG trop affichée.
Oui, alors au niveau de la politique affichée de BlackRock,
en tout cas, ils l'ont déclaré. Hein.
Oui, mais enfin, bon, on va dire qu'il y a un peu de marge. Alors après, je distinguerai deux choses. Il y a les investissements à titre personnel des particuliers, ouais, qui peuvent être intéressés par du court terme sur des investissements dans l'énergie, dans le pétrole, dans les armes, etc. Ça, c'est une première chose. Et puis après, il y a ce que font les sociétés de gestion. Avec ces investissements-là. Et je pense que là, il faut que les choses soient très claires. C'est-à-dire que il faut que les fonds affichent clairement ce qu'elles font en termes d'investissement dans l'un ou dans l'autre. En tout cas, sur l'énergie, moi, il y a un débat qui me fait quand même marrer. C'est-à-dire qu'en fait, j'entends, oui, il faut que je suis responsable en tant qu'investisseur, en tant que société de gestion, il faut que je continue à investir dans le pétrole. Non, mais ils se foutent du monde. C'est-à-dire que là, faut arrêter le délire. Les pétroliers.
Est-ce que c'est un moindre
mal? Non. Les pétroliers ont largement. Non. Les pétroliers ont largement de quoi faire les investissements nécessaires. D'ailleurs, ils en ont tellement qu'ils le rendent aux actionnaires parce que eux-mêmes n'imaginent pas de rentabilité de leur placement. Alors pourquoi vous, en tant qu'entreprise de gestion, vous iriez investir dans ces boîtes-là? Donc ça, c'est la première chose. C'est absurde. C'est économiquement, c'est absurde. Encore une fois, je parle pas des particuliers et c'est pas dogmatique. C'est pas une question de dogme ou quoi que ce soit. C'est une question financière. Après, sur les entreprises de la défense, en tant que société de gestion, investir dans des gens qui fabriquent des armes pour en tuer d'autres, il faudrait qu'on m'explique le raisonnement qui mène à ça.
Alors le raisonnement a un petit peu changé aujourd'hui. Alors,
On nous explique que
la défense, c'est aussi une manière de protéger nos démocraties.
Mais ça, c'est le rôle de l'État. Et l'État,
il le fait pas avec des fleurs, il le fait avec des missiles.
Oui, mais d'accord. On élit des gens qui nous représentent, qui prennent cette responsabilité d'aller vendre des armes à l'Arabie Saoudite, d'aller vendre des armes à un tel ou un tel, d'intervenir dans un conflit. C'est pas le rôle des entreprises privées. Et c'est pas le rôle des entreprises privées d'agir comme bras armés d'un État et que des privés sur ça gagnent de l'argent. C'est un scandale, ce truc-là.
Si je vous entends bien, on ne devrait pas pouvoir investir dans le secteur de la défense. Ça devrait être entièrement public. Vous allez passer pour un bolchevique. Hein.
Mais pourquoi je passerais pour un bolchevique? Mais pas du tout. Enfin, c'est normal. C'est le rôle de l'État de nous défendre.
Bien sûr.
C'est pas le rôle de l'État.
Mais c'est peut-être pas le rôle de l'État de fabriquer ces armes.
Il faut bien que quelqu'un les fabrique. Alors là, pour le coup, moi, je suis d'accord pour qu'on nous protège. Ouais. Mais c'est pas le rôle. Vous voyez, par exemple, le truc qui a été caricatural, c'est l'État allemand qui a décidé d'investir 100 milliards dans la défense. Sur ces 100 milliards, il y en a 10 milliards qui vont aller enrichir des investisseurs privés, des gens qui fabriquent ces armes. C'est un non-sens. Donc, cet argent-là doit être décidé par les assemblées avec des gens élus, et c'est le budget de l'État et c'est nos impôts qui doivent financer ça.
Ouais.
Voilà, c'est tout. Après, c'est un débat. Moi, je suis d'accord pour qu'on le discute. Hein. Après,
En revenir à la question de départ, est-ce que nous disait Vincent Auriac tout à l'heure, est-ce que vous avez le sentiment que c'est toujours aussi rentable d'investir en ESG?
Mais bien sûr que.
On a un portefeuille BFM responsable, niveau ce qu'il vaut.
Mais il performe très bien d'ailleurs.
Oui, mais il performe pas comme le CAC.
Enfin, le CAC,
depuis le début de l'année.
Oui, mais alors, faudrait. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux prendre l'échantillon un peu plus large que le CAC, parce que le CAC, avec 14% d'LVMH du total, bon, c'est un indice qui est quand même un peu.
Oui, mais là, justement, construit. Vous dites total. On a dedans des énergies fossiles.
Oui, il y a des indices. Ça, dans les indices, il y en a dans le S&P. Il y en a de moins en moins d'ailleurs, hein, parce que comme ces entreprises-là sont pas performantes en bourse, hein, si vous regardez, vous prenez un ETF pétrole sur 10 ans. Il fallait surtout pas investir là-dedans. Et je pense que ça va rester quelque chose de valable sur les années à venir. Parce qu'à un moment donné, ce pétrole, et vous avez pris l'exemple du charbon, c'est excellent. Si vous regardez les gens qui ont investi dans le charbon sur les 20 dernières années, mais c'est une catastrophe. Alors, ce que font certains investisseurs, c'est des boîtes de private equity qui investissent là-dedans. C'est-à-dire qu'elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles pompent au maximum. C'est-à-dire qu'elles font pas d'investissement, il y a rien de social, elles font du prélèvement et qu'elles vendent directement sur le marché. Ça, c'est un truc mais ce truc là c'est en extinction parce que le sous-sol à un moment donné il restera dans la terre, donc on sait bien que cet argent va être perdu en tant qu'investisseur. Donc choisissez votre camp, mais à long terme vous perdrez de l'argent en investissant sur ce genre de choses, de la même façon que la plupart des boîtes liées à la défense ont des problèmes de gouvernance. Parce que quand vous êtes dépendant de l'État pour les commandes, à un moment donné, ça pose problème. Et ça finit toujours mal. Donc, encore une fois, faites ce que vous voulez avec votre argent.
On l'a fâché.
Je
vous pose la question. Vous êtes un spécialiste de l'ESG et on en avait tout à l'heure un autre, Vincent Auriac, le président d'Axilia. Je ne poserai pas la question à Christopher puisque ce n'est pas son secteur d'activité. Voilà. Mais vous avez entendu la cloche. C'est Aude qui nous appelle depuis Euronext. Oula, il y a du monde au balcon. Derrière vous. Oui, c'est un balcon, je connais les locaux, excusez-moi, il n'y a absolument aucun jeu de mots, décidément. C'est un peu une ambiance de vendredi, hein, quand même. Oui, il y a du monde à la mezzanine, je devrais dire. Bon, Aude, où est-ce qu'on en est sur le CAC? On est à moins de 10 minutes de la clôture et on progresse de 0,69%.
une grosse journée à Euronext. Bon, le marché est en hausse, hein, quand même, plus 0,7% pour le CAC 40, mais surtout beaucoup d'activités. Oui, vous pouvez le voir derrière moi. Mais surtout, ce matin, on a sonné la cloche. Ça faisait un petit bout de temps qu'il n'y avait pas eu d'introduction en bourse à Paris. C'est Planisware qui est rentré en bourse, une grosse IPO hein, dans l'édition de logiciels. Planisware qui a relancé un petit peu en express, ça a été annoncé il y a deux jours, hein, son introduction en bourse, sans actionnaire individuel, sans petit porteur, souscription hier, sursouscrite hein, d'ailleurs. Pour le moment, les actions ne sont pas totalement créées. Bon, pour tout le process, vous pouvez voir l'article sur le site internet de BFM Business, hein, Sabrina Sabi. En tout cas, on est dans la tech, hein, des activités de SaaS, hein, les logiciels en abonnement. L'objectif, c'est un taux de croissance quand même ambitieux, 20% par an. Pour le moment, la capitalisation boursière, elle est au-dessus du milliard d'euros, 1,4 milliard, ce qui permet d'entrer sur le compartiment A hein, pour Planisware. Le titre, il s'échange en hausse pour son premier jour, plus 25% aux alentours de 20 euros pour un prix d'introduction de 16 euros. Donc, pour ce premier jour, ça s'est passé plutôt bien aujourd'hui.
Bon, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce qui se passe au balcon d'Euronext, Aude? Il y a du monde. Que se passe-t-il?
Non, c'est une visite d'étudiants qui ont gagné un prix et qui ont le privilège de visiter ces locaux que vous connaissez bien, Stéphane.
Que je connais, effectivement. Merci beaucoup, Aude Kersulek. On se retrouve évidemment pour le fixing. On fera le bilan de cette séance. On est en retard, pratiquement 5h30. On passe à la data room. Chaque jour, nos invités viennent en plateau avec un chiffre, une publication qu'ils ont choisi de commenter. C'est un peu leur carte blanche. On commence avec vous, Alain Pitou. 106, c'est le niveau du dollar index. Potentiellement un problème, un sujet pour de nombreux segments financiers, selon vous.
Voilà, en fait, depuis quelques semaines, depuis que le dollar, depuis que la Fed retarde sa baisse des taux, le dollar a tendance à remonter. Alors, comme dit Christopher, même si je suis pas d'accord, il le dit.
Mais bon, on est ouvert au débat.
Voilà, il dit que le dollar a pas beaucoup monté par rapport à l'euro. Je trouve quand même que c'est significatif, parce que c'était très calme depuis un moment et ça bouge un petit peu. Mais ce qui est vrai, c'est que par rapport à pas mal de devises asiatiques, en particulier le yen, on pensait que la petite hausse des taux du yen et puis la petite politique avait un peu changé, que ça allait suffire pour calmer la baisse du yen. Ça l'a pas calmé du tout, on est au plus bas de 34 ans. Même chose sur le won coréen, même chose sur la roupie indienne qui est sous pression également par rapport au dollar. Donc tout ça, ça génère un peu des tensions dans les pays émergents. Alors c'est des tensions qui sont aussi économiques, parce que ça a tendance pour ces pays-là à faire monter l'inflation, ce qui les arrange pas à un moment donné où elles avaient aussi l'intention, ces pays-là, je parle pas du Japon, mais de baisser leurs taux pour accompagner les grandes banques européennes. Donc ça, c'est le premier point. Et puis là, après, si on se rapporte côté du humble investisseur financier, ouais. Les tensions sur les marchés commencent souvent par les devises. Et il y a la volatilité qui augmente un petit peu, qui a très nettement augmenté sur les devises, qui crée un stress global, parce que ça se répercute sur les taux. Les taux émergents, sur les taux de certains pays, ça, et d'ailleurs les taux ont un peu monté un peu partout dans le monde, hein, un peu aux États-Unis aussi, et puis ça finit forcément à un moment donné à se répercuter sur les actions. Donc je pense qu'il faut regarder ce point-là. Alors là où je rejoins Christopher, c'est que c'est pas aujourd'hui encore dramatique, mais on a tendance à être un peu sur une tendance haussière, donc à suivre. Et je pense que c'est un chiffre très important et très intéressant, et je me remercie, je me félicite de l'avoir souligné aujourd'hui.
Alors pour
au cas où personne n'écouterait,
voilà, c'est ça. De si les gens réagissent. Alors vous dites que le dollar retrouve des couleurs, il remonte effectivement depuis le début de l'année. En revanche, on n'a pas retrouvé le niveau qu'on avait atteint au mois d'octobre l'année dernière. On est encore en dessous. Voilà. Donc tout le monde a raison. Tout dépend de la période. La période.
La perspective. Voilà, exactement. Alors vas-y ton chiffre. Vas-y.
Alors Christopher Dembick. La data room de Christopher, moins 73,6%. C'est la chute du taux d'utilisation des capacités de production en Chine.
Oui, 73,6%, pas moins.
Oui.
Ah oui, pardon.
Moins.
Oui, oui, la baisse. Non, oui, pardon, effectivement, pardon. On a une chute au niveau de 73,6% du taux de capacité de production en Chine. Alors c'est un peu plus succinct pour moi. Il y a moins d'enchaînement, mais ça vous montre en fait qu'on a un excès de production du côté chinois, donc des surcapacités, et automatiquement, bien sûr, les entreprises chinoises s'adaptent à ce niveau-là et vous allez beaucoup moins produire. Ça veut dire aussi que derrière ça, probablement un peu moins de croissance. On a eu un bon chiffre la croissance chinoise, mais bon, vous savez qu'il faut toujours être un peu prudent à cet égard. Donc juste très certainement le fait à mettre en avant, c'est cet aspect surproduction du côté de la, des excès de production.
Mais ça veut dire aussi qu'ils ont une possibilité de faire du dumping à fond, et c'est pas très, c'est pas une très bonne nouvelle s'ils commencent à exporter leur déflation vers nous.
Hein. Oui, ce qui effectivement.
Ouais. Mais... Effectivement, c'était succinct.
On m'a dit qu'il y avait peu de temps. Donc...
Merci beaucoup à tous les deux pour ce club dans la bonne humeur. Alain Pitou, Senior Advisor ESG, et Christopher Dembic, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. La Bourse de Paris, il reste un peu moins de 2 minutes avant le fixing. On est en progression de 0,66%, 8034 points. Dans un instant, Aude Kersulec depuis Euronext, Romain Dobry pour l'analyse technique, et puis on refera la séance avec nos invités. A tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
Fin de séance dans le vert sur le marché parisien. 8023 points pour le CAC. On progresse de 0,52%. Aude Kersulec.
Oui, après une séance de vert déjà hier, on reprend un petit peu de terrain encore aujourd'hui et on reprend les 8000 points. Vous l'avez dit, 8023 points à l'arrivée, plus 0,5% pour le marché parisien, mais c'est peu ou prou la même progression que les autres indices européens, plus 0,46% pour l'Eurostox 50, plus 0,38% pour le DAX. Alors on était quand même dans une journée où on arbitrait des résultats, des publications de premier trimestre ici à Paris. Ça s'est bien passé pour Edenred qui est en première place du CAC 40. Ce soir, plus 4,8% à 46,94€ pour la valeur. On a Danone aussi qui a relativement été bien apprécié, même si c'est un petit peu moins important. On est à plus 0,9% pour la publication de chiffres d'affaires. En revanche, on voit que le secteur de la tech à Paris est toujours largement pénalisé. ST Microelectronics ou Capgemini qui perdent 0,9%. On a le luxe aussi, en fait, toutes les valeurs de croissance pénalisées par des taux obligataires toujours très élevé, toujours au-dessus de 4,6% pour le 10 ans américain. Et sur le SBF 120, on a encore une autre publication dont je voulais vous parler, Sartorius Stedim, un premier trimestre très décevant, sauf que ce n'est pas le premier. Là, la valeur perd 15,6%, on est à 209€, donc sanction un peu rude ce soir pour Sartorius. Et puis ASML avait perdu hier 6,5%, rappelez-vous, aujourd'hui on est encore en baisse, hein, mais tout de même beaucoup plus limité, moins 1,4%. Donc du côté des Pays-Bas pour ASML. Voilà le CAC 40 donc, qui est en hausse pour la deuxième journée consécutive au-dessus des 8000 points, Stéphane.
Merci beaucoup, Aude Kersulec. Ils sont vraiment bruyants, hein, vos visiteurs chez Euronext. Merci beaucoup, on vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 18h. La séance d'un point de vue technique, c'est avec Romain Dobry, Bourse Direct. Romain, on est repassé au-dessus des 8000 points aujourd'hui. 8023 ce soir à la clôture. Est-ce qu'on a, d'un point de vue technique, franchi des seuils importants ?
Non, on reste en zone de neutralité entre 7935 futur avril et 8089. On est vraiment toujours dans un niveau de dans une séquence de consolidation non invalidée et avec un phénomène technique, l'échéance des marchés d'AEV qui se tiendra demain et qui empêche des mouvements d'accélérer dans un sens comme dans l'autre. On le voit d'ailleurs sur pas mal de valeurs. Hein, Danone qui progressait très nettement après ses publications ne termine qu'en hausse de 0,89. C'était un peu le même schéma pour LVMH hier, qui baisse d'ailleurs aujourd'hui un petit peu encore. Donc on est un peu mitigé, on est toujours sur des niveaux pivots. Est-ce qu'on va accélérer un peu plus à la baisse et consolider un peu plus ? C'est le schéma que semble vouloir prendre le marché, mais on n'a pas encore validé et rompu les niveaux d'alerte.
Merci beaucoup Romain Dobry, vous restez avec nous. On refait la séance tout de suite avec nos invités.
BFM Bourse, on refait la séance.
Cette séance de jeudi à la Bourse de Paris, on va la commenter avec Renaud Ramed, gérant chez Promépar Asset Management. Bonsoir.
Bonsoir Stéphane.
Merci d'être avec nous. Pierre-Louis Vermeer est également avec nous, gérant chez Swiss Life Banque Privée. Bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Et toujours avec nous Romain Dobry, marché dérivé et info d'expert chez Bourse Direct. La valeur qui a le plus progressé sur le CAC aujourd'hui, c'est Edenred. Le groupe a publié un chiffre d'affaires trimestriel et confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année. 4,9% de hausse à la clôture, 46,94€. Renault, c'est une valeur que vous aimez bien.
Ouais, enfin... Alors on était resté à l'écart du dossier, on s'est mis à neutre là. Donc c'est une publication qui nous fait un peu réapprécier le dossier, mais on était sorti sur différentes régions. C'est un dossier qu'on avait bien joué, qui donnait cher avec un très bon parcours. Et puis les litiges en cours, les aspects un petit peu ESG nous avaient fait un petit peu alerter. Là, enfin sur les fondamentaux, c'est plutôt une bonne publication avec une capacité à réaccélérer trimestre par trimestre, avec notamment deux divisions sur trois qui dépassent les attentes des consensus. Évidemment, la hausse des taux favorise vraiment leur revenu de placement financier, donc ça c'est toujours un point fort du dossier. Mais surtout, enfin, la société là s'est montrée convaincante, elle allège un petit peu la chape de plomb qu'il y avait sur le dossier en s'étant montrée rassurante sur le litige italien qui pourrait ne pas être si coûteux que ça et qui ne pénalise pas leur business, et ainsi que également sur la revue du marché français des frais qui pourraient ne pas être capés. Donc un peu de visibilité qui se dégage du dossier, qui est un dossier qui a énormément d'irrité. Donc il y a des aspects valorisation, forte génération de cash, voilà, mais on était en dehors. Aujourd'hui on se remet une pondération un peu neutre sur Edenred, mais une publication qui est plutôt applaudie parce que meilleure, et en tout cas avec des éléments plus positifs que par le passé.
Donc vous êtes neutre sur cette valeur chez Promépar Asset Management. Pierre-Louis Vermeer, chez Swiss Life Banque Privée, vous avez une opinion positive sur cette valeur?
Oui, plutôt positive. Je partage l'avis de Renaud. C'est vrai que ces derniers temps, on avait plutôt des interrogations sur le titre, donc pour les sujets réglementaires et politiques qui ont été évoqués. Bon, c'est sûr que la publication aujourd'hui, elle est de qualité, avec un groupe qui maintient ses objectifs pour l'année, donc ça c'est positif. Les résultats ont été rappelés. C'est vrai qu'il y a une bonne dynamique sur les différentes zones géographiques et sur les différentes activités. Mais c'est vrai que l'horizon s'éclaircit quand même sur les sujets qui pesaient, donc notamment avec l'encadrement des commissions. Et ça, je pense que ça peut quand même donner un petit souffle d'air dans les prochaines semaines, puisque aujourd'hui on avait une réunion importante entre les distributeurs de titres de service et le ministre de la consommation, où il était justement sujet de discuter d'une réforme qui est prévue en septembre pour soulever justement ces interrogations. Et donc ça semble aller dans le bon sens d'après les notes d'analyse qu'on a eues récemment et des articles de presse qui sont parus ces dernières semaines. Donc positif, on recommence à être positif sur Edenred.
Romain Daubry, sur cette valeur, on est à 46,94 €, on progresse de 4,9%. D'un point de vue technique, quel est votre point de vue?
Effectivement, peut-être du mieux après un parcours lourdement baissier depuis quelques semaines. Le titre préserve un niveau de support situé entre 44,65 et 45,60, et il le préserve franchement puisqu'il le déborde aujourd'hui en hausse avec un gap haussier, donc peut-être la rupture d'une tendance baissière, et puis du volume. Reste que le plafond de verre à déborder pour Edenred, c'est 47,86, niveau sous lequel elle reste nettement baissière. Si on réussit à clôturer en hebdomadaire au-dessus de ce niveau-là, on peut réactiver la dynamique haussière avec une première résistance à 50,34, et dans ce cas-là, ensuite des extensions qui seraient situées entre 53,46 et 56,48 au mieux.
Parmi les entreprises qui ont également publié leur chiffre d'affaires, Danone a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 2,5% en raison de son retrait du marché russe. En revanche, à taux de change et à périmètre constant, le chiffre d'affaires est en progression de 4,1%. Et ce soir, le titre Danone termine sur une progression de quasiment 0,9%. 59,06 €. Qu'est-ce que ça donne techniquement, Romain?
Bien, c'est neutre entre 57,99 et 59,15. Encore une fois, cette réaction haussière qui est quand même très nettement invalidée, puisque le titre prenait plus de 3%, 3,38% au mieux dans la séance, ne termine en hausse que de 0,89%. On croyait à une invalidation d'un mouvement de consolidation, et puis on revient se caler donc entre 57,99 et 59,15. Tant qu'on est sous ces niveaux-là, et enfin dans cette borne-là, et sous le niveau de 59,15, le risque d'accélération baissière reste possible. C'est, comme on le disait, un peu le même comportement qu'LVMH. Si on déborde 59,15, on peut aller chercher 61,62, pourquoi pas 64,04. Le risque, en revanche, sous 57,99, c'est d'accélérer. Franchement, on n'a pas beaucoup de support avant 55,66, 53,94 ensuite. Donc un marché très neutre, encore une fois, et des résultats qui sont applaudis au début et qui sont un peu gommés ensuite. Ce n'est pas un comportement très, très franc pour l'instant.
Parmi les publications de ce jeudi, Française des Jeux, c'était publié hier soir après la clôture, mais le marché réagit ce matin. Le titre termine en baisse de 3,3%. Renaud Ramet, c'est une valeur que vous suivez?
Oui, Française des Jeux. Alors, on n'est pas présent. Pareil, on avait accompagné le dossier de l'IPO et puis on était sorti parce que sur des sujets de valorisation et de très bons parcours boursiers est venu sur les aspects de valorisation cette enquête Commission européenne. Là, on est dans un cadre de résultats assez correct mais qui vient un peu se télescoper avec une acquisition et des sujets réglementaires. En fait, il y a quand même toujours un peu un sujet de chape de plomb sur le dossier, puisque si la visibilité sur l'enquête de la Commission européenne pourrait aboutir assez prochainement, on parlait de septembre, la communication de la société est plutôt confiante à ce sujet-là, mais vient se rajouter dans le cadre de l'acquisition de Kindred, hein, leader sur le marché, qui est une récente acquisition de la société, une autre réglementation qui pourrait évoluer sur la réglementation des jeux, des casinos en ligne, etc. La société est également relativement confiante, puisque le gouvernement, en fait, a dit qu'il serait plutôt contre cette mesure, mais c'est en discussion. Donc voilà, finalement, on a un titre qui replonge un petit peu. On n'est pas pressé d'y retourner. Tant qu'il y aura ces chapes de plomb, on pense que ça peut masquer la visibilité, même si les fondamentaux de la société sont solides, sur des marchés quand même en croissance, et c'est très générateur de cash. Enfin, il y a un vrai moteur de rémunération à l'actionnaire, en termes avec un rendement des free cash flow et du dividende assez élevé. Voilà. Mais pour nous, il faut un peu que ces nuages de visibilité s'améliorent pour revenir sur le dossier.
La valeur termine en baisse de 3% ce soir, 3,1 à la Bourse de Paris depuis le début de l'année. Elle est toujours en progression de 7%. Parmi les publications de ce jeudi, Sartorius, le fabricant allemand de fournitures pour les laboratoires. Le groupe a du mal à tourner la page de la crise sanitaire. Son chiffre d'affaires trimestriel est en baisse de 8%. Et déjà l'an dernier, le groupe était confronté à un ralentissement de son activité. Pierre-Louis Vermeer, quelle opinion vous avez sur cette valeur ?
Je suis neutre sur le dossier Sartorius. Je pense que c'est encore un peu tôt pour se repositionner sur cette société. Globalement, et pour contextualiser le sujet, vous l'avez rappelé, Sartorius fait face depuis maintenant un peu plus de 2 ans à un derating important de son titre en bourse, dans un contexte de demande plus faible de la part de ses clients, et puis d'un déstockage qui s'en est suivi après les années très porteuses après les années Covid. La publication du jour, elle déçoit, témoigne encore une fois de la faiblesse de l'activité en ce début d'année. Du côté des marges, il n'y a pas vraiment de sujet, avec une marge d'EBITDA qui ressort pas très loin de la guidance du groupe, 28,6% contre une guidance à 30%. Sur la dette nette, ça c'est plutôt amélioré, donc ça c'est positif aussi. En revanche, sur le chiffre d'affaires, c'est moins bon puisqu'il recule de 8%, donc ce qui est assez éloigné des objectifs pour 2024, qui vise une croissance qui est comprise entre +5 et +10%. Donc ça sous-entend quand même qu'on doit avoir une nette accélération des ventes courantes de cette année pour atteindre cette fourchette de croissance, et donc ça c'est un peu l'inconnu. Donc ce qui me pousse à être neutre compte tenu de tous ces éléments, c'est le fait que les ventes d'équipements sont toujours à la peine, et la tendance risque de ne pas s'améliorer significativement au deuxième trimestre, et on verra après pour le deuxième semestre, mais en tout cas au deuxième trimestre ça risque encore d'être un peu sous pression, et donc on risque d'avoir ce carnet de commandes sous pression, même si actuellement on est avec un book-to-bill supérieur à 1. Mais en tout cas, voilà, on peut avoir une petite pression au niveau du carnet de commandes dans les mois à venir. Et cette problématique, elle n'est pas aidée par l'activité du groupe en Chine, qui est un marché important pour Sartorius et qui a présenté de très mauvais chiffres ce trimestre. Et à cause du manque d'investissement qu'on connaît depuis maintenant, malheureusement, plusieurs trimestres. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même un manque de visibilité, et puis c'est un titre qui se paye quand même un peu cher en bourse aujourd'hui, un peu cher compte tenu du manque de visibilité qu'on a.
La valeur perd 15,2% ce soir à la clôture, 19% depuis le début de l'année et pratiquement 28% sur un an. Renaud Ramet, vous êtes également neutre sur la valeur chez Promépar.
Oui, on est neutre. Beaucoup d'éléments ont été décrits par Pierre-Louis. Je m'inscris à peu près en ligne. C'est juste peut-être noter, enfin, nous, ce qui nous ferait revenir à la neutralité, c'est peut-être la séance d'aujourd'hui. La réaction peut sembler sévère, mais pas oublier que c'est quand même aussi un titre volatile, et puis qui a l'habitude parfois d'avoir des trimestres sur trimestres assez volatiles. Donc ça se matérialise. Voilà, peut-être réaction quand même un peu sévère du marché sur cette publication, mais en tout cas on n'était pas encore acheteur fondamentalement, et on ne le reste pas encore sur ces niveaux.
Romain Daubry, avec une baisse de 15% aujourd'hui, ça représente 50 euros sur le cours de l'action. J'imagine qu'on a cassé des seuils importants.
Oui, effectivement, on a pu donner un message assez négatif puisque le titre qui était baissier depuis janvier 2022, qui évoluait au sein d'un canal baissier, tentait depuis le mois de mars dernier de le déborder, d'en sortir par le haut, en essayant de s'affranchir du niveau de la résistance majeure à 263,50. Alors effectivement, la baisse du jour avec un gap baissier, des volumes qui sont 4 ou 5 fois supérieurs à la moyenne des volumes récents et un mouvement de baisse fort font que effectivement le message reste très négatif. Reste qu'on a préservé un niveau de support qui est 204, au-delà duquel on termine un petit peu, 209,60 en clôture ce soir. Le risque sous 204, c'est d'aller chercher 176 et après on repart franchement à la baisse. Donc un mouvement à reconstruire et une tentative de sortie par le haut franchement avortée, ce qui n'est pas un bon signal graphiquement évidemment.
Renaud Ramet, votre valeur, celle que vous avez choisie aujourd'hui, c'est Exail Technologies. Pour quelle raison ?
Alors en fait, elle fait également office de commentaire sur la forte réaction du titre. Et d'un communiqué qui est tombé hier soir, un petit peu laconique, mais de notre côté, il n'y a pas raison d'en faire trois pages. Hein, c'est sur le gouvernement australien qui a informé Exail Technologies de l'abandon de l'appel d'offres concernant son programme de guerre des mines.
Donc c'est plutôt... On le signale, puisqu'on n'a pas dit, mais c'est une entreprise spécialisée dans la robotique civile et militaire.
Exactement, qui fabrique des systèmes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatiale et la photonique. C'est une valeur familiale. La famille Gorgé est présente à 44% du capital. Avec la baisse d'aujourd'hui, ça capitalise à peu près 350 millions d'euros. Donc c'est une forte réaction du marché. C'était à savoir si, alors c'est utile, c'est à savoir ce qui était dans les cours. Est-ce que ce contrat était pricé, pas pricé, du côté des brokers, puis ils étaient modestes. Mais en fait, on peut dire que oui, c'est une déception sur, en fait, les attentes 2024 et, entre guillemets, le pipe commercial, comme on dit. Quelques éléments quand même positifs. Bon, il n'est pas exclu, on va pas vraiment factoriser cet élément-là, mais qu'il puisse y avoir dans la relation d'affaires éventuellement des compensations, indemnisations, bon, c'est pas forcément évident. Mais pour nous, bon, ça remet pas en cause les chances de succès qu'a la société dans les autres appels d'offres. Et il y en a beaucoup. Actuellement, donc il y avait 10 navies au sein du monde, donc à moins 1, il en reste 9. Et finalement, à la lumière de cet accident, on comprend peut-être mieux la stratégie de l'entreprise. Moi, j'en avais vu fin mars, dont la stratégie est de répondre à tous les appels d'offres. Alors évidemment, c'est coûteux, parce que ça coûte de l'argent de répondre à des appels d'offres, ça pèse un peu sur la marge, il faut l'accepter, mais après on va se demander l'arbitrage, plutôt que, pourquoi pas ne cibler les appels d'offres les plus significatifs, les plus massifs, là où il y a le plus de chances. En quelque sorte, on a un peu la réponse aujourd'hui. C'est finalement, si on perd aussi Galgro, il ne reste plus rien. Donc la stratégie qui consiste à répondre à tous les appels d'offres semble, à cette faveur-là, plus pertinente. Et bon, la réaction, elle est aussi à mettre en lumière du parcours, qui était très surperformant depuis le début de l'année, et d'un discours du management qui confirme en fait une intensité commerciale inconnue depuis 20 ans. Alors là, ça prend un petit peu de plomb dans l'aile, mais on reste confiant sur le dossier, le fondamental, une société qu'on suit depuis très longtemps. C'est sûr qu'il y a un effet un peu brutal du passage de finaliste à, puisqu'ils étaient finalistes, finalement on annule la compétition. Donc voilà, cet élément fait du prince, c'est un petit peu les règles du jeu de tout positionnement sur des marchés liés par les gouvernements. Mais pour nous, il y a encore du positif à attendre sur la valeur.
19,1% de baisse aujourd'hui à Paris. Vous le disiez, un très beau parcours depuis le début de l'année. On est encore, malgré la baisse du jour, en progression d'un peu plus de 1% depuis le 1er janvier. On termine avec Planisware, qui a été introduit en bourse aujourd'hui à Paris, spécialiste des logiciels dédiés à la gestion de projets. Proposé à 16 € par action, la valeur termine ce soir en progression de 25,6%. Le cofondateur et le président de l'entreprise sera l'invité d'Edwige Chevrillon à 18h15 sur notre antenne. Est-ce qu'un succès comme cette introduction en bourse, Renaud, ça peut relancer les IPO à la Bourse de Paris?
En tout cas, ça fait du bien. Parce que les IPO et dans la tech avaient plutôt tendance à... Enfin, il y a beaucoup de delisting. Voilà, c'est une information que tout le monde connaît. Donc, avoir des IPO de taille relativement significative, la post-IPO, on est à peu près plus d'un milliard. Ça fait du bien, ça crée un engouement, c'est bon pour l'écosystème. C'est un élément pour les sociétés, on va dire, là, de taille moyenne, en l'occurrence. Donc, oui, il est temps de refournir la cote de sociétés, des parcours, puisqu'on n'avait rien eu depuis quasiment 4 ans, pas tout à fait, avec OVH. Donc oui, ça fait du bien. Et puis voilà, la société... finalement, l'éducation financière, le placement s'est fait vite. L'éducation financière avait déjà été faite à l'automne. Donc voilà, c'est un bon exemple et on espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir.
Merci beaucoup à tous pour la synthèse et l'analyse de cette séance. Renaud Ramet, gérant chez Promépar Asset Management. Merci à Pierre-Louis Vermeer, gérant chez Swiss Life Banque Privée. Et bien sûr, Romain Daubry, marché dérivé et info d'expert qui nous accompagne depuis 16h30 cet après-midi. Dans un instant, Good Evening Business, Guillaume Paul et toute son équipe. N'oubliez pas, à 18h15, l'interview du patron de Planisware avec Edwige Chevrillon. Et je vous rappelle la clôture de ce soir à Paris, plus 0,52%, le CAC est à 8023 points. Demain, c'est Étienne Brac que vous retrouverez à partir de 15h30. Très bonne soirée.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.